Amen. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous voir, très content d'être avec vous. Je suis un peu moins avec vous parce que j'ai parfois aux ados, alors j'ai l'impression que voilà, ça faisait longtemps. Donc je suis vraiment content de vous voir. Avant de commencer, je voulais juste mentionner deux choses. C'est que tout à l'heure, il y a un quartier libre. Donc il y a toute une équipe qui est en train de se préparer. Donc merci de prier pour l'impact que nous pouvons avoir dans ce quartier. Puis je voulais aussi mentionner que demain, je pars pour trois jours qui s'appelle Transvision. C'est une rencontre de tous les pasteurs, leaders de Suisse romande. Donc, il y a plus de 160 pasteurs qui se retrouvent trois jours à la montagne, à Lézin, pour chercher la face de Dieu, pour prier ensemble, pour s'unir. Et c'est vraiment des moments forts où Dieu dépose aussi des choses précises pour le corps de Christ, pour l'Église avec un grand E en Suisse romande. Et c'est juste génial, mais on a aussi besoin de vos prières. Et c'est des temps, des moments à part où je suis convaincu que le Seigneur veut parler. Alors merci d'y penser. Ce matin, j'aimerais commencer. J'ai un message d'encouragement, un message de feu. J'ai envie de vous, encore une fois, de vous secouer un peu, de vous booster, parce que je pense que ça fait partie aussi du rôle du pasteur. Parce que si de temps en temps vous n'êtes pas un peu encouragé à vous renouveler, booster, voilà. Ça va descendre. Donc il faut vraiment maintenir la flamme, le feu, la passion pour Jésus. Donc on veut vivre ça ensemble ce matin. Mais j'aimerais quand même mentionner tout d'abord, et c'est un peu le chemin que je vais prendre pour commencer mon introduction. Ce matin, c'est la fête des papas, c'est la fête des pères. Vous le saviez quand même ou... Voilà. Alors pour tous ces papas oubliés, effectivement, je tiens de le signaler. Bravo à tous ces papas, c'est un rôle important. Permettez-moi quand même une note d'humour, j'espère que vous la prendrez pas mal, mais les enfants sont pas là, on peut rigoler. Voilà, il y a la petite fille qui vient avec son poème, hein, puis le papa qui dit « t'es bien gentil ma chérie, mais c'est donnant-donnant, hein, donc à Noël, au lieu d'une nouvelle console, t'auras un poème tout pourri que j'aurais écrit moi-même ». C'est un peu trash, mais c'est vrai que quand on a des enfants en bas âge, on a encore la chance de recevoir un beau poème ou un beau petite chanson, un petit porte-clés. Généralement, ça varie un peu entre le porte-clés, le mini-cadre, voilà, le beau dessin. Mais j'aimerais donner trois conseils avant d'entrer dans le message au papa. Je me permets, parce que maintenant je suis quand même papa depuis un certain temps, j'ose donner trois conseils. Verbalisez, manifestez votre amour. Messieurs, des fois on aime, mais on ne le dit pas. On l'aime parce qu'on le montre en travaillant dur, en payant une glace, tout ça, puis on dit ah, on va leur donner une récompense. Mais dites à vos enfants que vous les aimez, dites que vous êtes fiers d'eux, manifestez, prenez-les dans les bras, c'est important. Deuxièmement, jouez avec vos enfants. Ça peut paraître bête, mais en fait, il y a tellement de choses qui passent avant. Et puis, la relation, elle se construit alors qu'on joue. Par exemple, nous, on fait du hockey. Nous, c'est notre truc, on aime bien, je mets les rollers, hein, et puis on joue au hockey avec les rollers. Même Johanna, qui a 5 ans et demi, elle a sa canne, elle a ses rollers. Et puis, on joue ensemble, et puis on essaie de le faire quasiment toutes les semaines. S'il fait beau, le temps le permet, on y va. Ça, c'est notre truc à nous. Mais qu'est-ce que vous avez, vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour jouer avec vos enfants? Ça vaut la peine. Des fois, ils me tirent un peu. Hein. Imaginez le dimanche après-midi, une fois que j'ai bien prêché, je rentre à la maison, puis enfin, il y a le... Ça se détend, là, j'aurais juste envie d'aller dormir. Puis, papa, on va dehors, on va faire du roller. Hein, ouais. Hein, c'est pas toujours le grand enthousiasme, mais ça vaut la peine d'y aller, ça vaut la peine de le faire. Et puis, soyez présents. Vous êtes à la maison. Quand vous êtes à la maison, soyez vraiment présents. Hein. Des fois, on peut être là sans être là. Et puis c'est souvent ce que nos épouses nous reprochent, c'était là mais t'es pas là. Alors soyez là, intéressez-vous à ce qui se passe dans la vie de famille, intéressez-vous à vos enfants, posez des questions, racontez aussi des choses. Parce que des fois les papas ils disent rien, hein, ils disent pas ce qu'ils vivent, ils racontent pas ce qui se passe au boulot. Alors bien sûr, peut-être des choses qu'on peut pas dire, mais dites-leur un peu ce que vous vivez, racontez. Hein, c'est aussi important et ça donne un bon modèle. Alors, ce qui n'est pas évident en tant que parent, puis encore plus en tant que parent chrétien, c'est lorsqu'on prend conscience de la trace qu'on laisse dans la vie de nos enfants. Hein, et c'est vrai que les pères ont un rôle essentiel, bien sûr, les mamans aussi, mais je suis convaincu que les papas ont un rôle essentiel dans la construction de l'identité de leurs enfants. Et le papa, il vient poser comme un fondement d'amour une sécurité qui est vraiment importante pour la suite. Mais on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on laisse, hein, des traces qu'on laisse dans la vie de nos enfants, des héritages, puis parfois, ces héritages, ils sont bons, et d'autres fois, ils sont un peu moins bons. Donc, on doit faire un peu le tri. Moi, j'aime bien me souvenir de la première fois où j'ai pris conscience que ma manière de jouer avec mes enfants était l'héritage de mon père. Donc, si je jouais aux petites voitures et que mon fils est né, il fallait que tout soit correct. C'est-à-dire, on prend la voiture, on suit le circuit, on suit la route, on parque bien, on joue bien. Hein ? Et puis, j'ai entendu une fois un orateur qui parlait de la masculinité, tout ça. Puis il racontait en fait que sa femme, elle était un peu comme moi. Et puis ça l'énervait parce que son fils, il prenait les deux voitures, puis il faisait bam, bam, bam. Et puis elle dit, mais non, mais joue correctement, arrête de faire ça, casse pas la voiture. Et puis lui, il lui a dit, mais en fait c'est normal, c'est un garçon, puis il exprime, et puis faut pas que tu laisse-le faire. Puis du coup, il lui a acheté plus de voitures. Hein, c'était une bonne manière de faire. Mais voilà, c'est intéressant parce que moi, quand je joue, je construis un train en bois, je vais prendre 1h30 pour construire le circuit, et puis tout est nickel. Il faut qu'il joue dans le bon sens, et puis, puis eux, ils arrivent, puis en fait, ils me le défont en 2 secondes, puis ils passent le train par-dessus l'autre. Il y a des aiguillages pour ça, non ? Hein ? Donc j'ai dû comprendre qu'il faut lâcher prise, il faut laisser faire. Mais c'était intéressant de dire, en fait, c'est des schémas des fois qu'on répète, puis qui peuvent nous brimer un peu. Ça brime, moi, ça brime leur créativité, ça brime un peu leur expression. Donc il faut prendre conscience de toutes ces choses. Mais j'aimerais vous poser une question. Quel est l'impact de notre vie spirituelle sur celle de nos enfants ? Pour ceux qui ont des enfants. Je pourrais poser la question aux ados qui sont là. Ouais, les ados sont là. Il y en a quelques-uns. Hein ? Est-ce que votre relation avec Dieu est stimulée par vos parents ? Par la vie spirituelle de vos parents ? Non, il n'y a personne qui va dire oui, parce qu'après, papa, maman va voir. Et puis, selon ce qu'il... S'il lève la main ou pas, ça va mal passer. Bon. Moi, je suis content à mes parents qu'ils n'ont pas mis une pression sur moi. Ils m'ont encouragé au bon moment. Mais c'est évident que notre état spirituel à nous va influencer nos enfants. Et puis, ils vont expérimenter selon ce qu'on vit, le plus, le bienfait de la présence de Dieu dans la vie de famille. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai envie de vous encourager, parce que si vous êtes enflammé pour Jésus, si vous êtes passionné, si vous avez faim et soif, vos enfants, ils vont le sentir et ils vont le vivre avec vous. Ils auront aussi faim et soif. Hein. Donc, c'est important de prendre en fait, soin de notre vie spirituelle à nous en tant que parents, en tant qu'adultes, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. C'est pour tout le monde. Mais c'est hyper important parce qu'en fait, on a un impact dans nos familles, auprès de nos enfants, petits-enfants, collègues, amis, etc. Puis cette relation avec Dieu, vous le savez, elle est fragile. Elle est hyper précieuse, mais elle est très fragile. Et c'est ce que l'ennemi essaie toujours de casser, de couper en premier. Alors c'est pour ça, ce matin, le titre de mon message, c'est « Une vie spirituelle, renouvelée, un souffle nouveau ». Enfin, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. On va voir quelques pas ensemble au travers de l'histoire d'Ézéchias, le roi Ézéchias. Et puis, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. En fait, Ézéchias, je trouvais intéressant parce que justement, lui, il arrive, il succède à son père, et puis son père, il lui a laissé un mauvais héritage. Et en fait, c'est intéressant parce que nous, quand on devient adulte, ou notre foi elle devient adulte, c'est un peu comme si on succède à quelque chose, mais on est responsable de notre vie spirituelle, on est responsable de ce qu'on va en faire, n'est-ce pas ? Donc, lui, il va succéder à son père, mais Akaz n'avait pas entretenu sa relation avec Dieu. Puis ça a eu des conséquences sur tout le peuple. Mais on va le voir, Ézéchias a choisi de ne pas faire comme son père, puis en fait, il va réformer la vie spirituelle et celle de son peuple. Donc on va lire d'abord cette histoire dans les Rois, et puis ensuite dans les Chroniques. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour 2 heures de lecture, mais On va prendre le temps de lire ces textes. Donc 2 Rois, chapitre 18, les versets 1 à 7. Donc c'est le début de l'histoire. On est à un moment de l'histoire aussi important où finalement le royaume du Nord vient d'être déporté. Donc il ne reste plus que Juda, donc Ézéchias est roi de Juda. C'est un petit royaume. Et il est dit ceci, la troisième année du règne d'Osée, fils d'Élam, sur Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, le roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Donc déjà là, je ne vais pas m'attarder maintenant sur le texte, mais déjà là, les trois mots qui ressortent, il fait disparaître les hauts lieux, il mit sa confiance dans l'Éternel, il s'attacha à l'Éternel. Donc vous comprenez un peu l'impact, l'importance de ces mots lorsqu'il arrive, c'est un chamboulement. Il revient vraiment de tout son cœur à Dieu et sera une grande influence. Et puis dans le texte parallèle, dans 2 Chroniques 29, alors le début sera le même. Vous voyez la cohérence du texte biblique extraordinaire. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija. Là, ils ont rajouté le Ja, Abija. Et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les lévites, qu'il rassembla sur la place orientale, et il leur dit « Écoutez-moi, lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. En effet, nos pères ont fait preuve d'infidélité. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Et ils l'ont abandonné, ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel. Ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert ni parfum ni holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. » La colère de l'Éternel a donc reposé sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés à la terreur, à la dévastation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos propres yeux. Donc pensez ce qui est en train de se passer au royaume du Nord. C'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée, que nos fils, nos filles et nos femmes sont en déportation. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Amen, ça va ? Donc voilà notre roi Ézéchias, 25 ans, qui succède à son père et puis qui décide de faire différemment de lui. Et ce n'est pas facile de faire différemment de nos prédécesseurs. Quand on est jeune, on a souvent plein d'idées extraordinaires. Moi, je me souviens, je dis « Ah, quand je serai pasteur d'une église, tout ce que je vais faire, et puis tout ce que les pasteurs précédents avant moi ont fait, faux. Ah là là, moi, je ferai différemment. » Et puis la réalité, c'est que parfois, on fait quand même les mêmes erreurs. On ne fait pas tout comme on aurait pensé. Et puis quand on est à la place de celui qui était avant nous, on réalise que ce n'est pas si facile de succéder. Donc là aussi, il succède à son père et il a vu son père agir. Donc le modèle qu'il a, c'est celui de son père. Je l'ai mis ainsi, son père incarnait inévitablement le modèle du roi dont il devrait un jour reprendre les fonctions. Donc il a eu un modèle qui n'était pas le meilleur. Du coup, pour faire différemment, c'est difficile. On a tendance à refaire les mêmes choses. Mais Ézéchias est décidé de faire autrement. De plus, Ézéchias, non seulement il devient roi, il est jeune, mais il n'est pas roi de n'importe quoi, de n'importe quel pays. Il entre dans l'histoire du peuple de Dieu, du peuple choisi, du peuple de l'Alliance. un peuple qui a connu le Dieu qui est, le Dieu qui a été le libérateur. Ils ont été libérés de la servitude par la main puissante de Dieu. Il a nourri miraculeusement le peuple dans le désert. Donc un peuple que Dieu a aimé et à qui il a donné ses lois. Donc il arrive dans un contexte hyper important et malheureusement, son peuple n'était plus fidèle à cette alliance. Et comme j'ai déjà dit, son propre père, il y avait une responsabilité, il s'était détourné de Dieu. C'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui, malheureusement, de se détourner de Dieu. Et parfois, suite à une blessure, à une douleur, à une épreuve, à des mauvais choix, certains chrétiens rejettent Dieu, certains chrétiens s'éloignent de Dieu, abandonnent la foi, ou décident de dire « c'est fini moi, les chrétiens, il ne faut plus m'en parler, je ne veux plus aller à l'église ». C'est triste, mais c'est une réalité. Mais imaginez maintenant un enfant qui a accompagné ses parents des années à l'église, pour qui la prière, la louange, ça faisait partie de sa vie. D'un coup, c'est fini. Papa et maman disent « on ne va plus à l'église ». Il n'y a plus de chant, il n'y a plus de prière. Imaginez un peu le choc. Mais finalement, c'est un petit peu ça qu'Ézéchias ressent. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose avant, puis d'un coup, il n'y a plus. Il n'y a plus rien qui se passe. Ézéchias, il connaissait l'histoire du peuple, évidemment. Il connaissait les miracles que Dieu avait accomplis. Et il a pu juste constater le choix désastreux de son père. Mais Ézéchias, donc, a décidé de faire des réformes pour rétablir une relation entre Dieu et son peuple. Il avait compris que c'était essentiel. Je lisais un commentaire qui disait ceci. Le passé influence les décisions et actes d'aujourd'hui qui, à leur tour, influencent l'avenir. Il y a des leçons à tirer et des erreurs à ne pas répéter. Alors Ézéchias, il a pris conscience de cette douloureuse réalité et puis il a voulu faire des choix pour influencer l'avenir. Alors que son père, et on peut le lire dans 2 Chroniques 28, son père a littéralement fermé les portes de la maison du Seigneur, lui a choisi de les rouvrir. Ézéchias est sorti des voies du passé et puis il a entrepris trois choses importantes qu'on va voir maintenant. La première de ces choses, on l'a vu dans le texte, qu'il a commencé à réparer le temple. Mais repensez quelques instants à ce temple qui a été fermé. Je ne sais pas si on peut comprendre ça. Le temple, si vous avez suivi, si vous avez lu un peu l'Ancien Testament, le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu. Le temple, c'est là où il y a la révélation de Dieu. C'est la présence de Dieu au milieu du peuple. Le temple, il est sacré. Le temple, il est hyper important. C'est vraiment là où on est en relation avec Dieu. Il n'y a pas encore le Saint-Esprit répandu sur tous. Donc, c'est vraiment le lieu de connexion avec Dieu. Mais ce lieu-là, il a été fermé. On a éteint les lumières, le texte nous le disait, les lampes ont été éteintes. C'est comme si, finalement, voilà, le Dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, maintenant c'est terminé, piouf, switch off, ferme les portes, bye. On laisse comme ça, on laisse tout en ruine, on éteint, on ne s'en occupe plus. Et l'auteur dans le texte utilise des verbes forts, abandonner, délaisser, tourner le dos, fermer, éteindre, cesser. Voilà ce qui se passe. C'est terminé. Alors vous avez peut-être vu avec tristesse, une fois ou l'autre, de grandes enseignes, grandes entreprises fermées. Peut-être quand c'est des entreprises familiales, plusieurs générations, puis d'un coup on apprend que c'est la dernière fois. Ça se termine, ça s'arrête, c'est hop, fermé. Ça met des émotions un peu, si vous avez connu, voilà, vous avez vu le passage, des fois nos grands-parents ils nous racontent, mais c'était telle et telle, et puis c'était troisième génération, puis hop, c'est cassé. Ou des fois, moi j'aime bien quand je suis sur le site de Le Clancher, là, à Yverdon, hein, Le Clancher qui était, franchement, c'était la gloire d'Yverdon. Ils employaient tellement de monde, tous les petits immeubles, là, ils étaient remplis d'employés de Le Clancher. Quand vous êtes sur ce site, vous imaginez comment ça devait bouger à l'époque. Ça devait être extraordinaire. Hein, puis maintenant, ils ont toujours pas mal de collaborateurs quand même à travers le monde, mais c'est plus qu'un petit bâtiment. Près de Landy, là-bas, c'est plus du tout la même prestance qu'avant. Hein, ou si vous pensez à Sainte-Croix, avec les boîtes à musique, l'horlogerie, les grandes entreprises, Paillard. Et puis aujourd'hui, ben, y a plus tout ça. Donc vous voyez une gloire passée un peu. Hein, puis on peut être un peu nostalgique de cela. Puis on peut même faire un petit parallèle pour y penser à ces habitants. De Blatten, hein, qui finalement peuvent repenser à leur village et aujourd'hui qui est enseveli. Hein, et puis aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais vous voyez, d'un coup, il avait de la vie, il y avait de la gloire, c'était beau, c'était grand. D'un coup, c'est mort, plus rien. Donc c'est ça qu'Ézéchias a dû ressentir. D'accord ? C'est ça qu'Ézéchias vivait. Ce qui était central est éteint, ce qui est beau est devenu ruine, ce qui était vivant est devenu mort. Alors, où c'est que je veux en venir ? Je veux en venir à nous, évidemment. Permettez-moi une petite introspection. Dans quel état est votre habitation intérieure ? Aujourd'hui, nous sommes le temple. La Bible nous dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Comment est votre temple ? A-t-il perdu de son éclat, de sa beauté ? Est-il recouvert par autre chose ? Y a-t-il encore la lumière de sa présence ? Ça peut paraître bizarre de poser ces questions alors que vous êtes là ce matin, au culte. Mais évidemment, vous êtes là. Évidemment. Mais je ne prends pas ça pour acquis, en fait. Parce que des fois, ben, on peut venir régulièrement le dimanche, puis à l'intérieur, on est un peu mort. À l'intérieur, il n'y a plus grand-chose qui se passe. La passion, l'amour, le premier amour, il n'est plus vraiment là. Et puis justement, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ma maison la semaine ? Est-ce que j'ai cet enthousiasme, cette soif, cette envie de partager avec ma famille, mes amis ? Est-ce que j'ai envie de m'attacher à ce Jésus ? Est-ce que je veux continuer à le connaître ou... Finalement, ben voilà, j'avance, puis on verra bien, puis je me pose plus trop de questions en fait. Donc c'est pour ça que j'ose vous poser cette question-là. Il n'y a rien de pire que de laisser une maison inhabitée. D'ailleurs, si vous voulez un jour déménager, acheter une maison, renseignez-vous depuis quand elle était inhabitée. Vous savez, quand une maison est inhabitée, ben en fait, c'est là que la rouille arrive, c'est là que vous mettez de l'eau, il n'y a plus d'eau, les joints pètent, il y a plein de choses qui se passent quand ce n'est pas utilisé. Ça laisse la place au calcaire. Une maison a besoin de vie. Elle est faite pour contenir la vie. Puis c'est la même chose pour nous. On a été créés pour contenir la vie de l'Esprit de Dieu. Et si notre temple il demeure vide, vide de sa présence, alors quelque chose va remplir ce vide. Autre chose. Donc peut-être que ce matin, ton temple intérieur a besoin de réparation. Peut-être que tu as aussi reçu des coups, peut-être que tu as été blessé, peut-être que ton temple a été sali, parce que des mauvaises choses de l'extérieur y sont entrées. Peut-être que pour une raison X ou Y, les portes de votre temple se sont fermées. Notre maison, bien que spirituelle, doit être entretenue, réparée, restaurée. On a fait quelques jours de camping là cette semaine, et puis moi je m'habitue à des trucs qui ne fonctionnent pas dans notre vieille caravane. C'est une caravane qui a plus que 30 ans d'âge, puis on n'a plus de lumière à la salle de bain, puis je me suis habitué à qu'il n'y ait plus de lumière, puis de temps en temps ma femme me dit « Mais tu te souviens, Luc, il faudrait changer la lumière quand même, hein, c'est pas très pratique. » Vous voyez, des fois il y a des choses comme ça qu'on laisse... On ne s'en occupe pas. Mais on sait, à quelque part, mais on laisse de côté. On a aussi là, on avait une pompe à eau là, qui ne fonctionnait plus, mais C'est parce que les fils, ils ont été tellement utilisés, qu'on a tellement tiré dessus qu'ils sont usés, en fait. Donc il faut couper, dénuder, puis reconnecter. Hein, puis c'est un peu ça, des fois, d'être émondé pour porter à nouveau du fruit. Des fois, on a besoin de se reconnecter. Et ce n'est pas qu'on ne l'était pas, c'est qu'il y a des choses qui nous ont usés. Il y a des choses, des fois, qui nous ont fatigués, même dans la vie chrétienne. Et peut-être c'est bon de dire, bon, oui, j'ai besoin d'être restauré. Alors, comme Ézéchias, on peut ce matin rouvrir les portes de notre temple. Hein, c'est vraiment de nouveau recevoir cette lumière extraordinaire. La lumière de Christ. La vie de Christ, la vie du ressuscité, pour qu'il y fasse pleinement demeure. Et quoi que tu aies vécu, il n'est pas trop tard pour laisser le Saint-Esprit prendre ou reprendre sa place. Et même si des fois on est responsable de ce qui s'est passé dans notre temple, hein, même si on a laissé des choses entrer, eh ben, on peut simplement demander grâce et pardon à Dieu. Je reconnais mon péché, viens me laver et me purifier. Et c'est ce que Ézéchias a demandé aux Lévites et aux prêtres, purifier le temple, consacrer le temple. Ainsi la relation avec Dieu peut être rétablie et reprendre le dessus. Il n'y a rien que Dieu ne peut réparer. Il y a des choses peut-être que tu crois brisées dans ta vie, puis j'aimerais vraiment te dire, mais il n'y a rien que Dieu ne peut réparer. Parfois, ça prend du temps, mais si tu veux retrouver et grandir dans ta relation avec Dieu, il va t'aider. Il est là, il va réparer ce qui est cassé, il va te donner aussi les bons outils. C'est lui qui te donne les outils, mais il va faire avec toi. C'est à nous de cultiver notre relation avec Dieu. Ézéchias a donc réparé le temple. Ça va, vous êtes encore avec moi? Puis, qu'est-ce qu'il a fait ensuite, Ézéchias? Eh bien, il a rétabli l'adoration. Et puis, on va ensuite lire encore quelques versets, toujours dans de chroniques à la suite, où il est dit ceci. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, rassembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes, des harpes, suivant l'ordre de David, de Gad, le voyant du peuple, ou celui qui a des visions, le voyant du roi, et de Nathan le prophète. C'était en effet le commandement de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les prêtres avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Au moment où l'holocauste commençait, le chant de l'Éternel commença aussi, au son des trompettes et avec l'accompagnement des instruments de David, le roi d'Israël. Voilà, tout un orchestre qui était là. Donc il va rétablir les Lévites en fait dans leur rôle de serviteurs, d'adorateurs, afin que le nom de Dieu retentisse, que la louange retentisse. Et la louange, c'est la vie. Et là, il y avait des sacrifices en l'honneur de l'Éternel qui sont à nouveau offerts. Donc, il n'y avait plus rien qui s'était passé. Donc, c'est vraiment la vie qui revient dans le temple. Il y avait tellement de joie, ils ont offert 600 bovins, 3000 moutons. Hein, donc, rendez-vous compte de ce qui prenait place là. C'était énorme, ça ressemble à une mini dédicace du temple. Vous vous souvenez de la dédicace du temple Salomon, c'était gigantesque, on devait dire, mais comment ils faisaient? Et là aussi, ils étaient un peu débordés, de nouveau, les sacrificateurs, il fallait s'occuper de ces animaux et tout. Quand vous lisez tout le texte, vous dites, mais waouh, ce qui prend place est vraiment extraordinaire. Donc, l'adoration, les amis, l'adoration élève Dieu. Notre adoration, elle révèle aussi l'état de notre relation. Et si je loue plus Dieu, si je n'adore plus, alors ma relation est peut-être en peine. L'adoration, elle montre notre attachement à Dieu. Je le loue, je l'adore parce que je sais qui il est. Je sais ce qu'il a fait pour moi, puis j'ai aussi foi en son action. Et j'atteste alors que j'adore Dieu. J'atteste devant les puissances, je montre qu'il est le Dieu, l'Éternel, qui a toute la gloire. C'est vers lui que je me tourne, c'est lui que j'adore. Et peut-être que tu as besoin de rétablir la louange dans ta vie. C'est pas juste chanter des chants. Ça, c'est des fois notre déformation parce que on pense que l'adoration, c'est juste chanter des chants. Alors, il y en a toujours ceux qui disent, j'aime pas chanter. Mais qu'est-ce que tu faisais pour adorer Dieu? Qu'est-ce que tu as arrêté de faire? Qu'est-ce que tu fais pour, que tu sais que quand tu fais ça, ça plaît à Dieu, ça fait plaisir à ton Dieu. Comment utilises-tu tes dons qu'il t'a donnés? C'est souvent ça, c'est nos dons, nos talents. Si je les mets au profit du Seigneur, eh ben alors je lui rends gloire, je l'adore à quelque part. Je me mets à son service. Peut-être ce matin, tu ne sais pas vraiment pourquoi, mais Dieu veut t'appeler à recommencer, à ouvrir ta bouche pour le louer. Et si cela te semble impossible dans ta situation, ben c'est ça des fois, c'est nos situations de vie qui font qu'on n'arrive plus. Mais dis-toi que alors que tu élèves le nom de Dieu par ton adoration, tu élèves Dieu au-dessus de ta situation. D'accord ? Donc en fait, c'est hyper puissant d'ouvrir notre bouche, d'adorer, de dire qu'il est, de proclamer notre foi dans des situations difficiles. Vous vous souvenez, Paul et Silas en prison ? La terre tremble, les murs tremblent, les portes s'ouvrent. Mais quelque part, c'est ça. C'est dans ces moments-là, plus que tout autre, que notre louange devrait retentir. Parce qu'on a foi, on croit en ce Dieu qui délivre. Amen. Que ta louange retentisse. L'adoration, c'est lui rendre un culte. Et peut-être, vous le savez, moi je ne suis pas très latin, mais le culte, culte en latin, ça vient de cultus, qui veut dire cultiver. Et c'est intéressant, finalement. Rendre un culte, c'est aussi cultiver. C'est cultiver notre relation avec Dieu. Et quand on cultive notre relation avec Dieu, ben, y a un fruit, c'est certain. Troisième chose qu'Ézéchias fait, on avance, il n'y a pas plus que trois points, il renverse les hauts lieux. Et je relis simplement ce qui était dit dans 2 Rois 18, 4, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car l'Israélite avait jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Nehushtan. Alors, dans le contexte, les hauts lieux sont véritablement des lieux qui surplombaient la ville, qui étaient voués à l'adoration de faux dieux, d'idoles, de déesses comme Asera, déesse de la fécondité. Et le fait d'être en hauteur démontrait une forme d'autorité, d'emprise. Donc imaginez une ville entourée un peu de collines, et puis en haut, il y a ces stèles, il y a ces idoles, ces idoles qui sont là. Alors, en Suisse, on peut dire qu'on a de la chance. La plupart des montagnes, elles ont quoi ? Elles ont une croix, d'accord ? Mais imaginez la même chose, et finalement, vous n'avez pas une croix, mais vous avez une statue. Vous avez un Bouddha. Vous avez peut-être un piquet où c'est écrit « au dieu de l'argent ». C'est pas mal pour la Suisse, ça, « au dieu de l'argent ». Mais imaginez l'emprise, quand même. C'est violent. Donc voilà, c'est ça qu'il y avait. Et Ézéchias ne peut pas laisser ça, ne supporte pas ça. Et là, on n'est plus à l'intérieur du temple. Il a travaillé le temple, il a réparé le temple, il a remis l'adoration dans le temple. Maintenant, il s'occupe de l'extérieur. Et on est appelé à faire la même chose. Réparer, prendre soin de notre temple, évidemment, à vivre l'adoration, à vivre la présence de Dieu, à lui rendre gloire. Et puis à s'occuper aussi de l'extérieur. Donc pour rétablir cette relation avec Dieu, nous devons renverser tout ce qui s'est élevé au-dessus de Dieu dans nos vies. Le texte fait référence au serpent de bronze érigé par Moïse. Vous vous souvenez de ce serpent, ou le serpent d'airain, dans certaines traductions, nombre 21. Et puis c'était intéressant parce que, en fait, c'est Moïse qui l'avait fait sous la demande de Dieu. Et puis chaque fois, alors qu'ils regardaient ce serpent, ben ils étaient guéris des morsures de serpent justement. Donc il y avait une guérison qui s'opérait alors qu'ils fixaient les yeux sur ce serpent. Alors c'est un peu bizarre. On peut se dire bon, c'était peut-être un type de Jésus, mais bon, le fait que ce soit un serpent, etc., c'est étonnant. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est que c'en est devenu un instrument de culte idolâtre. Il lui avait même donné un nom, comme on donne un nom à une idole, en fait. Donc finalement, quelque chose qui était donné par Dieu, voulu par Dieu, et qui a bien fonctionné, est devenu une idole. Et je trouve que ça, c'est parlant. Parce que nous aussi, on a des fois des choses qu'on a reçues ou héritées justement du passé. Et puis, même dans notre éducation, même dans notre éducation théologique, dans notre éducation du passé, etc., qui parfois, ben, avec le temps, on comprend que ce n'était pas tout à fait juste. Des fois, c'était erroné. Mais on n'ose pas quitter. On n'ose pas lâcher ça parce que quand même, à l'époque, c'était tellement important, ça. On nous a tellement dit que c'était important. Et puis on se pense aussi un peu, qu'est-ce que diront les autres? Et Ézéchias renverse le serpent que Moïse avait élevé et fait. Enfin, l'impact, c'est énorme. C'est pas n'importe qui, Moïse. D'accord? C'est le même qui a vu Jésus, qui a vu Dieu sur la montagne face à face. Il a reçu les lois. C'est Moïse, quoi. Et puis là, Ézéchias doit juste aller à casser ça. Vous voyez l'impact. Alors, nous aussi, on a des fois ces méthodes, ces manières de faire, ces objets qui peuvent devenir même la superstition. Si je vous dis, si tu n'as pas ta croix autour du cou, Dieu n'entend pas tes prières. Hein. Elle est où ta croix, Laurence? Hein? Voyez, puis finalement, bah, la croix quand même. Il faut absolument avoir une croix. Vous voyez, des fois, l'impact, ça peut... Mais non, c'est faux. Mais on peut comme d'un coup entendre ça et puis en faire quelque chose d'une vérité inébranlable, quoi. Il faut porter une croix, par exemple. Et je trouve aussi intéressant parce que le fait de ne pas renverser des fois les choses du passé, ça nous empêche d'entrer dans ce qui est nouveau, en fait. Et si je prends l'histoire, le vin nouveau, il faut qu'il soit mis dans des nouvelles outres, pas dans des vieilles outres. Vous voyez? Puis des fois, ces héritages du passé, comme ça, c'est un peu ces vieilles outres. Puis imaginez les outres, vous avez les outres où Jésus, à Cana, a transformé l'eau en vin. C'est extraordinaire. Je veux jamais m'en débarrasser de ces outres-là. Hein? Il y a quelque chose. Il y a une onction particulière sur ces jars. Extraordinaire. Mais non, en fait, le Seigneur dit, je ne peux pas mettre du vin nouveau dans des vieilles jars. Donc, c'est aussi ça. C'est lâcher ces choses anciennes pour recevoir le nouveau, pour entrer dans ce que Dieu a préparé. Alors ce matin, demande à Dieu de te montrer ce qui peut-être n'est pas de lui, ce qui est autour de toi doit être renversé, afin que ta relation avec Dieu ne soit pas opprimée, détournée, attaquée. Qu'est-ce qui exerce une autorité sur ta vie et qui te maintient peut-être dans l'échec ou sous l'eau? Et je lisais encore un livre qui disait qu'on fait souvent face au démon Yvon. J'ai beaucoup rigolé. Yvon. Le démon Yvon. Yvon, pensez quoi? Yvon, pensez quoi? Hein, le regard des autres sur notre vie, elle peut être aussi une prison. C'est tellement fort que parfois on préfère agir en fonction d'Yvon que de Dieu, finalement. Et imaginez si Ézéchias avait justement agi en fonction d'Yvon dire quoi? Mais il n'aurait jamais renversé ce serpent. Le regard des autres, le désir de plaire pour nous garder dans l'inaction et nous empêcher de faire les changements que le Saint-Esprit nous demande. Alors j'arrive à ma conclusion et j'aimerais simplement donc ce matin vous inviter à vraiment revisiter votre relation avec Dieu, à revenir à lui, à faire le ménage de printemps, c'est une bonne idée, c'est cette saison. Faisons le ménage si nécessaire, ne laissons pas traîner des choses, ne jouons pas aux chrétiens, mais vivons chaque jour cette relation authentique avec Jésus. Ézéchias, il a fait quoi? Et donc, il a réparé le temple, il a mis sa confiance en Dieu, il a rétabli l'adoration, il s'est attaché à l'Éternel, il a renversé les hauts lieux et remet Dieu en numéro un. Groupe de louange, vous pouvez venir. J'aimerais qu'on puisse terminer avec cette question. Aimerais-tu ce matin établir ou rétablir ta relation avec Jésus? Il n'y a aucun jugement, c'est juste dans l'intimité de nos cœurs. Aimerais-tu vivre plus avec Jésus? Aimerais-tu impacter ta famille avec ta soif de Jésus? Donc il n'y a rien de nouveau ce matin, il n'y a rien de nouveau. Mais je crois que c'est tellement important de ne pas laisser ce feu s'éteindre, diminuer, mais de continuellement dire au Seigneur, mais oui Seigneur, je veux plus de toi. Oui Seigneur, je ne veux pas attendre que ma maison soit en ruine pour commencer à la restaurer, à la réparer. Je veux faire les choses à mesure. Je ne veux pas attendre que la lumière s'éteigne. Je ne veux pas attendre que les portes se ferment. Je ne veux pas laisser cette blessure dans ma vie prendre le dessus et m'éloigner de toi. Mais je veux m'approcher de toi tout à nouveau. Je vous invite simplement à fermer les yeux là où vous êtes. Demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors que Ézéchias a fait tous ces changements, il a réparé, rétabli, renversé. La parole nous dit « Ainsi fut rétabli le culte au temple de l'Éternel. » Seigneur, je prie que ce soit de même pour nous ce matin. Alors que nous prenons le temps de regarder à l'intérieur de nos cœurs, ce n'est pas toujours agréable. Mais Seigneur, merci parce qu'avec ton amour, ta douceur, tu viens réparer, tu viens rétablir, tu viens souffler ta vie ce matin. Tu viens redonner cette joie de l'adoration, de la louange. Seigneur, merci parce que tu viens par ta puissance renverser tout ce qui a pris une place trop grande, qui s'est positionnée au-dessus de toi. Et Seigneur, tu nous appelles à rétablir ce culte, cette relation avec toi, à cultiver cette relation avec toi ce matin. Seigneur, tu vois dans le secret des cœurs, Seigneur, tu connais ce que chacun, chacune vit. Saint-Esprit, merci de rejoindre maintenant. Merci pour ce souffle nouveau que tu veux donner. Jésus. Peut-être que tu avais l'habitude d'écouter de la louange, mais depuis quelque temps, tu n'écoutes plus la louange. Tu ne mets plus de louange dans ta maison, plus de louange dans ta voiture. Le Seigneur te dit, recommence, rallume. Oui, Seigneur Jésus, vraiment proclamer ta vie abondante sur chacun d'entre nous, sur nos familles. Seigneur, je prie ce matin pour les papas, pour les pères, dans leur responsabilité spirituelle. Seigneur, tu les établis comme des pasteurs sur leur famille. Et Seigneur, je prie qu'ils puissent prendre cet appel au sérieux. Seigneur, qu'ils puissent cultiver leur relation avec toi. Que cette vie spirituelle au sein du foyer ne repose pas que sur une personne, que sur madame qui doit être le moteur. Mais Seigneur, que tu puisses réveiller les hommes. Les établir vraiment comme des pasteurs sur leur famille, dans le nom de Jésus. Alléluia.